Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Le 15 janvier dernier, l'architecte tchéco-britannique Jan Kaplitsky nous quittait. Une carrière bien remplie et un immense talent assombri dans les 6 derniers mois de sa vie par la polémique suscitée par son projet de bibliothèque nationale à Prague. L'occasion de revenir aujourd'hui sur les rapports parfois conflictuels entre politique et culture en terre tchèque.
Chobotnice na Letné se stavět nebude, protože tento projekt byl nepřipraven a byl jistým dobrodružstvím.
La pieuvre de l'esplanade de Letná ne sera pas construite. Ce projet n'a pas été préparé comme il fallait et ce n'était donc qu'une forme d'aventure. C'est sur ces mots qu'en juillet 2008, le ministre de la Culture Václav Jelička a clos sans appel le dossier de la Bibliothèque nationale. Ce projet de l'architecte Jan Kaplitsky avorté finalement suite à l'émoi de l'opinion publique devant la forme insolite de l'édifice, surnommé par ses détracteurs la pieuvre. Ceux-ci lui reprochaient de défigurer un quartier historique, le parc de Letná, tandis que ses partisans louaient sa modernité. Pour retrouver une polémique d'une telle ampleur, il faut remonter à la fin du XIXe siècle avec l'assainissement du quartier juif de Prague. Sauf que cette fois-ci, l'écho est plus grand encore, mais surtout que l'on trouve deux camps mieux équilibrés, l'opinion publique contre la municipalité. Du remaniement du quartier juif, il reste aujourd'hui les 6 synagogues ainsi que le cimetière et l'hôtel de ville. On sait que Franz Kafka réagit avec tristesse et amertume face à la disparition des ruelles mystérieuses, des cours intérieures et des échoppes antiques du vieux Josefov. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Écrivain pragois de langue allemande, Léo Perutz évoque dans « La nuit sous le pont de pierre » les destructions sous le regard ému de son héros. Ils ont démoli la maison à l'auberge froide et la maison à l'œuf de coucou. Ils ont démoli la vieille boulangerie où ma mère allait chaque semaine porter son gâteau du Shabbat. L'écrivain symboliste Wilhelm Mertschik, quant à lui, publie en 1897 un essai virulent « La Besta Triomphance », où il associe la municipalité de Prague à un démon destructeur, non sans une certaine morgue millénariste. À vrai dire, le quartier juif est à cette époque dans un état déplorable. La surmortalité pour cause de maladies infectieuses y est particulièrement élevée, avec en première ligne la tuberculose. L'assainissement, qui débute en 1896 et se prolonge jusque après la Première Guerre mondiale, représente donc une mesure de santé publique nécessaire. Pourtant, la reconstruction de Josefov focalise la peur de voir Prague perdre son caractère historique, un débat qui agite le Paris d'Haussmann, avec en plus de virulence à la même époque. La mobilisation dépasse de loin le monde littéraire, puisque l'opinion publique, allemande comme tchèque, s'érige contre le projet d'assainissement, et de multiples associations visant à préserver le vieux Prague voient le jour, comme les Amis de la Prague ancienne ou encore des clubs d'étudiants. Le nouveau quartier, qui naît des ruines de ce chantier, n'attire guère plus d'éloges. Citons le quotidien Český Svět en 1907 à propos de l'avenue Pagiska de Paris, percée à l'occasion des grands travaux et connue aujourd'hui pour ses restaurants et boutiques de luxe. Nous citons le quotidien. Dans cette avenue de prestige, le goût pragois est absent. Partout, c'est comme si un parvenu se gonflait de vanité. Bien sûr, ces jugements ont été adoucis par le temps. Le quartier de Josefov, incarnant par son style historiciste, souvent réussi, un témoignage supplémentaire du savoir-faire architectural tchèque. À la chute du régime communiste en 1989, Prague se réinsère dans les grands courants architecturaux internationaux après une longue éclipse. La maison dansante de l'architecte américain Frank Gehry en est un symbole célèbre. On pourrait y ajouter les réalisations iconoclastes de David Tcherny avec ses bébés grimpant le long de la tour de télévision à Žižkov. Prague renoue bel et bien avec sa créativité traditionnelle, n'oublions pas que la Bohème est l'un des seuls endroits en Europe où le cubisme a trouvé une expression architecturale. Si l'architecture tchèque retrouve donc sa vitalité après la révolution de velours, les relations entre l'État et les acteurs de la culture n'évoluent pas aussi rapidement. Le ministère de la Culture fait preuve d'un interventionnisme parfois pesant, notamment à travers son droit de nomination. Citons ainsi le renvoi du chef de l'orchestre philharmonique, Gerd Albrecht, en 1996, alors que son contrat est encore en cours. La même année, Milan Knijak, recteur de la faculté des Beaux-Arts, et le cinéaste Jan Schwankmajer protestent contre le remplacement du directeur général de la Galerie nationale et de celui de son département d'art contemporain. Jan Kaplitsky et son projet de bibliothèque nationale ont sans doute souffert des mêmes maux. Car la polémique médiatique a vu les responsables politiques effectuer un revirement à 180 degrés. Certes, le président Václav Klaus s'était déclaré hostile à ce projet futuriste dès le début. La municipalité de Prague et le gouvernement s'étaient en revanche déclarés intéressés par le projet avant de l'abandonner sous la pression d'une partie de l'opinion publique. Nous écoutons la réaction de Jan Kaplitsky suite à l'annonce de l'arrêt de son projet. En tant qu'architecte, je suis très surpris par le fait que le ministère tchèque de la Culture est le seul ministère de la Culture en Europe et peut-être même dans le monde qui lutte contre la culture. Le rapport entre la politique et la culture ferait-il partie des chantiers de rénovation encore en cours depuis la chute du communisme ?